Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Il peut y avoir autour de nous larmes et désolation, guerre et destruction, mais en même temps en nous une paix parfaite et un repos parfait. Ô Dieu, nous te bénissons de ce que nous te connaissons, mais nous désirons mieux te connaître, plus te posséder. Seigneur, nous voulons ton amour dans nos cœurs. Et tant que tu nous prêteras vie, Seigneur, nous voulons communiquer cet amour aux autres qui sont dans les troubles. Ô Seigneur, nous proclamons la victoire de Golgotha, la victoire sur le péché. Le péché détruit notre monde. Mais Seigneur, la victoire, tu l'as prise à Golgotha. Et aujourd'hui encore, tu appelles tous ceux qui voudront rentrer dans ton royaume. Car tu es proche, tu viens bientôt. Veuille nous parler encore dans ta parole, Seigneur, à cette heure. Et nous montrer le sérieux de ta parole. Car jamais, jamais tu as dit quelque chose pour rien. Donne-nous d'écouter, de mettre en pratique, Seigneur. Tu es vivant, assiste-nous, Seigneur, et que toi, tu sois vu, non pas l'homme, quel qu'il soit, mais Jésus, car lui seul, de lui vient la vérité et la parole. Seigneur, nous ne sommes que des outils dans ta main. Emploie tes outils, nous t'en prions, au nom de Jésus. Exode, chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, verset 12, il est écrit. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Nous poursuivons notre étude des 10 commandements les uns après les autres, car comme nous l'avons déjà dit, ces commandements ne sont pas caducs. Cette parole, elle est pour nous tous. Il n'y a rien dans cette parole qui ne soit pas pour nous aujourd'hui. Dieu a parlé en ce temps-là et Dieu parle à travers cette même parole aujourd'hui. Car, fondamentalement parlant, l'homme est toujours le même. Pécheur qui a besoin du salut. Les cultures changent, les habitudes changent, les connaissances évoluent. D'accord, mais le fond du cœur de l'homme est toujours le même. L'homme est pécheur par-dessus tout et le péché est attaché à sa chair. Et Dieu a donné ses instructions dans ses lois et ses commandements. Et là, dans ces 10 commandements que on regarde un peu de travers de nos jours soi-disant éclairés, ces 10 commandements ont toujours leur valeur et leur sens. Et nous devons revenir à ces valeurs afin de les vivre. Afin de les vivre. Comme il est dit là, je mélange mes pages dans ma Bible. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Vérité sur laquelle nous devons encore insister aujourd'hui. Avec promesse, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'a donnée. Sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'a donnée. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'a donnée. Cette terre était donnée aux Congolais, pas vrai? Et c'est une bonne terre, elle produit. La famine, on ne la connaît pas. On connaît là un peu de famine dans les grandes villes parce qu'on ne plante pas et on vit avec l'argent. On gagne si peu. Mais je vous assure qu'en brousse, on mange, même si on est pauvre. Cette terre est merveilleuse. Merveilleuse. Mais cette terre nous perd aussi. À cause de la cupidité, elle est tellement riche qu'on est prêt à tuer son prochain pour posséder sa richesse et l'utiliser pour soi-même. C'est là la tragédie. C'est là la grande tragédie. L'intérêt personnel au lieu de l'intérêt commun. L'égoïsme, la cupidité. Seigneur, Seigneur, il est temps que tu viennes mettre de l'ordre. Tu honoreras ton père et ta mère. Conséquence, si tu le fais, tes jours seront prolongés sur la terre que l'Éternel t'a donnée. La cellule familiale est selon le plan de Dieu. Vous savez que dimanche dernier, c'était la fête des mères à travers le monde. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais enfin, c'est comme ça. Ma femme l'a rappelé tout à l'heure. Souviens-toi, c'était la fête des mères dimanche dernier. Bon, ben, nous sommes dans le cadre de la famille maintenant. La cellule familiale est selon le plan de Dieu. C'est là que toute vie commence. La cellule familiale est fondamentale dans la société. Toute société équilibrée commence par la cellule familiale. Quand je parle de la cellule familiale, je parle de papa, de maman et des enfants. Je ne parle pas de la famille par extension, car chaque famille par extension a une cellule familiale. Le cousin, il est marié, il a sa cellule. La cousine, elle est mariée, elle a sa cellule. La tante, elle est mariée, elle a sa cellule. L'oncle est marié, il a sa cellule. Donc, quand la parole de Dieu parle de la famille, c'est ça, papa, maman, les enfants. En premier, la cellule familiale est destinée à remplir la terre. Et de là, elle est appelée à développer, à se développer. Et de là partira le développement de la société par les effets de chaque cellule familiale. Leur travail va contribuer à l'économie et au bien-être de l'ensemble. Les cellules familiales se sont développées en grand nombre dès le jour de la création. Alors, il a fallu donc une structure pour coordonner cette cellule familiale. Dieu n'est pas un Dieu d'anarchie et de désordre. Une structure, une organisation sociale, une marche à suivre pour garder la cohésion et l'unité de toutes ces nombreuses cellules familiales. Dieu est un Dieu d'unité, de cohésion. Et ces cellules familiales sont interdépendantes les unes des autres. Personne n'est indépendant. Tous dépendent de l'autre. Du reste, personne ne peut se vanter d'avoir toutes les capacités. Le charpentier va faire la charpente, mais il ne va pas faire la maçonnerie. Le maçon va faire la maçonnerie, mais il ne va pas faire la charpente. Donc le maçon a besoin du charpentier, et le charpentier a besoin de du maçon. Il faut l'intellectuel, mais que des intellectuels, le monde ne marchera pas. Il faut des ouvriers spécialisés. Et l'intellectuel, il a besoin de l'ouvrier spécialisé. Et il a besoin même de celui qui vient entretenir son jardin. Gardons-nous de nous mépriser les uns les autres. Nous sommes une société interdépendante. Personne d'entre nous ne peut faire tout et a toutes les capacités. Mais les capacités de plusieurs peuvent faire une force quand ces capacités sont unies pour un bon but. Et c'est ainsi que la société est devenue une cohésion, une unité et une harmonie. Une harmonie. Oh Dieu, redonne-nous l'harmonie dans notre société. La première société structurée est la famille, avec le père qui en est le dirigeant. Toute communauté doit avoir un genre de hiérarchie. C'est-à-dire, dans ce sens-là, je ne veux pas dire qu'il doit avoir quelqu'un qu'on va honorer à tel point, qu'on va se mettre à genoux devant et duquel on va dépendre de lui pour tout ce qu'on doit faire et on va le lui demander comme un esclave à son maître. Ce n'est pas ça l'idée. Mais il faut quelqu'un qui donne la direction de l'ensemble. Donc Dieu a mis dans cette société famille, cellule, un père qui en est le dirigeant et il a mis une mère qui se met sous sa protection. Fondamentalement parlant, la femme aime avoir son mari, non pas pour diriger, non. Si elle dirige, il n'y a pas de bonheur dans la famille. Mais elle se met sous sa protection. Elle a besoin de se sentir protégée. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Alors, si elle a besoin de cela, donnez-le lui. Faites-lui sentir que vous êtes capable de la protéger. N'est-ce pas, Noé ? Et que vous savez de quoi vous parlez, car vous êtes un homme responsable. Et d'autre part, D'autre part, elle est cette personne qui aime se mettre sous votre aile. Elle est une aide, dit la Bible. Elle est une partenaire, plein de bon sens et plein de bons conseils. Plein de bons conseils. Je bénis le Seigneur pour la femme qu'il a mis à côté de moi, qui aime bien être à côté de moi et qui aime bien que je sente que je la protège. Mais il l'a mise à côté de moi pour une bonne raison aussi, pour compléter mon ministère. Pourquoi? Parce qu'elle est de bons conseils. Ah oui. De bons conseils pour son mari, de bons conseils pour les autres. Conseils. Et nous avons besoin aussi beaucoup de contrôle. Voilà une chose que les gens n'aiment pas. Et pourtant, c'est une chose qui doit être. Donc, chacun apporte son élément. Chacun apporte ce que Dieu lui a donné pour apporter pour le bien de l'ensemble. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on parle beaucoup de développement. Mais écoutez-moi bien. Développement, 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 développement. Un pays en voie de développement. Et quoi encore? On parle de développement, mais quel développement peut-on avoir quand la cellule familiale est en ruine? Entre parole et réalité, il y a deux choses. On parle de développement, mais la cellule familiale est en ruine. C'est pour cela que le développement échoue. Le départ du développement, c'est la cellule familiale. Le départ du développement, ce n'est pas une armée. Ça, c'est le départ de la destruction. Le départ du développement, c'est une cellule familiale forte et unie. Commençons à cela. Le début de développement, ce n'est pas des capitaux qui viendraient de je ne sais pas où. Vous pouvez donner tous les capitaux du monde, mais s'ils ne sont pas gérés avec honnêteté, ils ne serviront à rien. Et tout sera vain. Il faut d'abord la structure de la cellule où les principes sont gardés, où ces principes sont maintenus, l'honnêteté, la vérité, la justice, l'amour du prochain, le respect des autres, et le respect du bien des autres, et le respect du bien commun. Il y a le bien personnel gagné honnêtement. Il y a le bien commun qui doit servir à tous. Voilà comment une société travaille. Mais si le bien commun devient mon bien personnel, la société va mourir. On parle beaucoup de développement. Mais quel genre de développement peut-on avoir? Si la cellule familiale est en ruine, avec tous les divorces, les infidélités, les magouillages moraux qui se passent à gauche et à droite, la cellule est détruite. Alors il n'y a pas de développement possible. Toute société doit être structurée. Vous m'entendez? Elle doit être structurée pour être viable. Si une société n'est pas structurée, elle est inviable. La famille est devenue anarchique aujourd'hui. Anarchique! Je vous dis tout cela pour que nous ayons le sens du besoin. Ce n'est pas pour détruire, mais pour qu'un sens du besoin ça soit développé en nous et qu'au niveau familial, nous fassions ce qu'il faut faire. Avec Dieu, c'est sûr. Personne ne vit par lui-même ou pour lui-même. Chacun œuvre pour le bien de l'ensemble. Si je travaille que pour moi-même, ma vie n'a pas de sens. Ma vie a du sens que quand j'œuvre pour les autres. Et là, je trouve ma joie, ma satisfaction, mon bonheur. Rien n'est plus malheureux qu'une personne repliée complètement sur lui-même. La marche et le succès dans la vie de la famille dépend d'abord du père. Père! Prends-tu tes responsabilités? Fais-tu ce que tu dois faire vis-à-vis de tes enfants, de ta femme et de ta famille? Comment veux-tu être un chef pour diriger les autres, si tu ne diriges pas ta famille d'abord, selon les principes même de la morale et de la vérité? Il y a des gens qui sont très intelligents et qui savent bien dire aux autres ce qu'il faut faire Et leurs conseils sont certainement excellents, mais leur exemple est absolument négatif. Et là, ils détruisent ce qu'ils font. Le message le meilleur, l'enseignement le meilleur, est celui qui vient d'un homme qui fait ce qu'il dit. Et c'est ça qui fait la puissance et la force de son message. Frères et sœurs, si nous ne faisons pas ce que nous disons, fermons la bouche. Que nous soyons prédicateurs, que nous soyons enseignants de n'importe quoi. Si nous ne faisons pas ce que nous disons, notre message est faible, faible, faible. Mais croyez-moi, lorsqu'il y a la conviction interne que c'est ce que je fais et que je m'efforce de faire avec fidélité, eh bien, mon frère, ma sœur, le message sortira avec autorité et vrai et puissance. La marche, le succès dans la vie dépend du Père. Un bon Père aura une famille équilibrée et donnera un bon exemple à ses enfants. Vous entendez ? L'exemple, c'est cela dont l'enfant a besoin. Le modèle, c'est cela dont l'enfant a besoin. Un jeune homme qui veut avoir une famille heureuse doit faire attention au choix de celle qui sera la mère de ses enfants. Jeunes gens, attention! Attention dans le choix de celle que vous voulez faire, de laquelle vous voulez faire la mère de vos enfants. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est quelque chose à considérer avec grand sérieux. C'est un choix qui se fait avec Dieu. C'est un choix qui se fait avec Dieu, avec son aide. C'est un choix très important qui ne peut avoir pour base les désirs et les attirances naturelles. Qu'un jeune homme soit attiré vers une jeune fille, c'est normal. Qu'une jeune fille soit attirée vers un jeune homme, c'est normal. Qu'il la trouve belle, c'est normal. Qu'elle la trouve beau, c'est normal. Rien d'anormal. Mais ceci ne veut pas dire mariage. Prie d'abord. Cherche la volonté d'abord. Regarde la famille d'abord. Teste le caractère d'abord. Pourquoi ? Parce que tu vas former une cellule familiale qui aura une influence dans le monde, négative ou positive, qui sera un exemple ou qui sera une honte. Attention. Beaucoup trop se marient sur des impulsions. Non ! Nous, on ne se marie pas sur des impulsions. Et c'est à cause de cela qu'avant le mariage, on couche avec une jeune fille ici et là, et qu'on a des enfants par hasard, et que ces enfants sont laissés pour compte. Là, nous avons la destruction de la société. Dès l'instant où la famille est détruite, la société s'en va en ruine. Un exemple duquel on aura, j'ai pensé, je vais vous prêcher là-dessus un jour. Samson. Samson, il était dans la maison de Dieu. Samson connaissait la loi de Dieu. Samson avait reçu une grâce spéciale de Dieu pour un ministère. Mais motivé par les désirs de la chair, il est allé après trois femmes qui furent la ruine de sa vie, qui furent la ruine de son ministère. Voilà, Samson, quelle image de beaucoup de chrétiens. Il n'était pas ignorant. Il n'a pas voulu écouter les conseils de ses parents. Il n'a pas voulu écouter les conseils de ses proches. Elle me plaît. Prends-la pour femme. Elle me plaît. Mais quoi elle me plaît? Il y en a beaucoup qui me plaisent. Tenez ces jeunes filles, elles sont formidables. Mais moi je les regarde comme des fleurs au bord de la route. Mais je ne veux. Mais je ne vais pas cueillir chaque fleur que je vois. Je ne pourrais plus les tenir dans mes bras. Écoutez, mes frères. Moi, ça m'arrive souvent de remarquer et d'admirer une belle femme sur la route. Il n'y a pas péché à cela. Mais attention à ce qui se passe là-dedans. S'il y a un mauvais désir, là je pêche. Des fois je suis avec ma femme. Elle me dit elle-même, tu as vu cette femme-là? En tout cas, elle est belle. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas peur de me le dire. Et je le lui dis aussi. Tu as vu celle-là? Tu as vu ce gars-là? Oh. Tu as vu Noé? Oh. Qu'est-ce qui se passe là dans ton cœur? Samson, il a dit, elle me plaît. Eh bien, ce n'est pas suffisant pour te marier avec elle. Voilà. Et c'est là sa chute. Oui, il aurait pu avoir une fin bien plus glorieuse. Mais le Dieu de miséricorde était quand même avec lui. Car il était sincère, mais plein de défauts. Qu'est-ce qui va dominer sur toi, tes défauts ou ta sincérité, la recherche de Dieu et de sa volonté? Honorer ses parents, c'est de ça que nous voulons parler. Dans cette société voulue par Dieu, il a fixé des règles et un certain ordre d'autorité. C'est Dieu qui a fait cela. Des règles à un ordre d'autorité, de responsabilité, d'obligation. Il est dit, il est ordonné, pas recommandé, mais ordonné aux enfants d'honorer leurs parents. En quoi consiste ce commandement, dites-moi? Quelles sont nos obligations envers nos parents qui vieillissent et qui n'ont plus de force? Dieu exige-t-il une obéissance aveugle des enfants? Qu'est-ce que veut Dieu? Dieu veut exactement dire et comment ces choses s'appliquent-elles en ces temps que nous vivons? En ces jours de bébé éprouvette? Vous savez qu'on peut mettre dans une éprouvette un œuf féminin fécondé par un spermatozoïde dans un milieu particulier, à une température particulière, elle est laissée se développer. Et après mettre ce mini embryon dans le sein de la mère, oh là là! Vous savez qu'aujourd'hui, on met du sperme congelé, qu'on peut garder et utiliser, remettre à la vie, même après la mort du père donneur. Vous savez aujourd'hui qu'on fait la fécondation artificielle, on le fait sur les animaux, et pourquoi pas sur l'homme? Et ça se fait, sur la femme, disons. Eh oui, qui est le père là? Dans ce temps d'amour qu'on dit libre, libre, amour esclave, voilà comment je l'appelle. L'amour libre, véritablement libre, c'est aimer sa femme de tout son cœur. Essaie d'avoir une seule femme. Du reste, quand on aime sa femme, on n'en a pas besoin d'une autre. On ne regarde pas même les autres, on les voit en passant, on dit elle est jolie, puis c'est tout. Et puis c'est tout. Pourquoi? On est satisfait et heureux avec sa femme. C'est pour cela, allez-y doucement mes frères, priez que ce soit votre femme, toute votre vie. Et plus vous vieillirez, plus vous l'aimerez. Car vous allez découvrir que l'amour ne repose pas sur l'aspect extérieur qui soit beau ou quoi. Mais ça, il repose sur quelque chose d'intérieur extraordinairement merveilleux. Honorer ses parents dans les temps d'aujourd'hui. Ah oui. Dans la promiscuité que l'on voit aujourd'hui, promiscuité veut dire voisinage choquant de personnes de sexe différent, ce qui engendre le péché. La première question peut être celle-ci. Qui donc alors est mon père? Qui dois-je respecter? Qui est ma mère, enfant abandonné ou confié à d'autres? Qui est mon père ou ma mère lorsqu'une femme porte un enfant pour un autre, pour une autre, moyennant certainement des dédommagements? Ceci se fait. La femme est stérile. Alors, on va chercher une femme porteuse. Et on va prélever la semence du mari de la femme stérile. Et mettre cette semence par fécondation artificielle dans la femme porteuse qui va avoir l'enfant pour la femme stérile. Voilà les manipulations qu'on fait aujourd'hui. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est comme ça. On est tellement intelligents en Amérique et en Europe. On vous dépasse tous dans la bête, dans la violation, dans l'orgueil, dans la manipulation des génétiques, soit que ce soit dans l'agriculture ou dans les êtres humains, pour améliorer. Quoi donc ? Ce que Dieu fait n'est pas suffisant. Ce que Dieu a fait n'est pas bon. Vous allez le payer, et nous le payons sous plein, dans beaucoup de domaines. La recherche est bonne, mais attention, il y a une limite. Cloner, on parle de cloner des hommes maintenant. Cloner des hommes, on a cloné des animaux, d'accord ? Autrement dit, répéter par des manipulations génétiques, refaire une personne exactement comme elle était. La vieille est partie, mais le deuxième est exactement la réplique. La réplique, mais cette personne a-t-elle un esprit ? C'est là la question. A-t-elle un esprit ? Tu peux répéter, cloner Albert Kalonji, peut-être. Et il y aura un deuxième Albert Kalonji. Il sera exactement comme lui, il parlera comme lui, il pensera comme lui. Ses empreintes digitales seront les mêmes, tout. C'est une copie certifiée conforme. Mais est-ce que le deuxième aura un esprit ? Peut-être sera-ce comme cela que ce super-homme qui s'appelle l'Antéchrist sera fabriqué. N'ayant pas reçu un esprit de Dieu, il aura reçu un esprit de Satan. Ça, c'est mon interprétation. Voilà ce que nous faisons. Et dans tout cela, où est le Père ? Des manipulations, nous en avons. Que d'atteintes dans le monde aujourd'hui. Que de coups portés à la famille telle qu'elle est voulue de Dieu. Des coups. Satan veut détruire la cellule familiale. Soyez conscients de cela. Et je vous dis que l'Église sera forte que dans la mesure où les cellules familiales dans l'Église seront fortes. Si les cellules familiales sont faibles, l'Église ne vaut rien. Et nous devons travailler et encourager tous ces frères qui travaillent dans les ministères des couples, des fiancés et de toutes ces choses-là. C'est un point capital pour la bonne marche de l'Église de la borne. Des cellules familiales fortes. Jeunes gens, attention quand vous vous mariez. Jeunes filles, attention quand vous vous mariez. Et quant à ces histoires de dot, je déteste ça. Dans un temps où les gens sont pauvres, on leur demande des dots inadmissibles. Au lieu de les aider pour qu'ils puissent fonder leur foyer normalement, on leur prend le petit peu qu'ils ont. Demandez ça en France, si vous voulez, de symbolique de dot. Et rien de plus. Mais vous, nouvelle génération, changez les choses quand vous marierez vos filles. La famille est agressée aujourd'hui. Cette relation des parents avec les enfants et des enfants avec les parents est des plus complexes. Est interprétée de façon différente selon la culture. Dans certaines cultures, on laisse l'enfant tout faire. L'enfant est roi. On ne va rien dire. L'enfant crie, pleure, tous les caprices, papa et maman le laissent tout faire. Il y a des cultures où vraiment c'est comme cela. Et il y a aussi des familles où c'est comme cela. Il y a d'autres où l'enfant est vraiment gardé dans un carcan. Dans un carcan d'une sévérité incroyable, on le tape, on le bat tout le temps, on lui manifeste presque pas d'amour, il doit travailler. Des extrêmes. Dans Proverbe 29, 15, il est dit, « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Au verset 17 du même chapitre, « Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. » C'est quand ils sont petits qu'il faut leur donner la marche à suivre. On ne le laisse pas passer tous leurs caprices. On leur apprend quelle est l'obéissance. On leur apprend la discipline. On leur apprend ce que c'est que dire la vérité. On leur apprend la transparence. On leur apprend toutes ces choses. Ceci se fait chaque jour par l'exemple, hein? Parce que les enfants savent bien dire. Tu veux que je le fasse, mais toi tu ne le fais pas. Enseigne aux enfants ce que tu fais toi-même. Allons-nous faire les délices de nos parents? Comment allons-nous nous comporter avec nos parents quand ils seront devenus âgés et ne pourront plus subvenir à leurs besoins? Quelle valeur a ce commandement dans le monde d'aujourd'hui? Le monde change de leurs enfants, parents qui, injustes, brisent l'esprit de leurs enfants par des brimades, par des humiliations constantes, continuelles. L'enfant n'est pas intelligent, disent-ils. Tu es bête comme tout, ils n'arrêtent pas de dire à leurs enfants. Il ne fera rien dans la vie. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? En rien, en incapable. Peut-être tout juste à tenir une machette et couper l'herbe. Il y a des parents qui disent ça à leurs enfants. En incapable. Le tout accompagné de coups. Injustifiés. Non mérités. Là, c'est du poison qui est injecté dans le cœur de l'enfant. La révolte va venir en lui. Le découragement va la gagner. Et des complexes destructifs contre lesquels il aura une peine terrible à lutter. Qu'en est-il de ces enfants envers leurs parents? Ah, voilà la question. Et vous serez surpris de voir combien d'enfants sont sous ce joug, même dans des familles chrétiennes. J'ai connu en Europe beaucoup de gens qui sont sortis du calvinisme. Et le calvinisme est très dur, il est très légaliste. Et je vous assure que dans ces familles, bien souvent, les enfants sont malheureux. Ils sont malheureux parce que c'est la loi à la maison. La loi à la maison. Et l'enfant, bien souvent, au lieu d'être raisonné, au lieu d'être compris, pour rien et pour peu de choses, une gifle, une fessée, des cris. Tu es un incapable. Tu ne sais rien faire. Qu'est-ce que je peux attendre de toi? Qui m'a donné cet enfant? Eh oui, je ne sais pas si ça se passe dans votre société. Je crois que dans toutes les sociétés, ça se trouve. Mais il y en a qui le font au nom du soi-disant, de la soi-disant vérité biblique, qu'ils ont tordue et de laquelle ils ont fait une loi. Il est dit, ne ménage pas la verge à ton enfant. Alors on tape et on tape. On humilie l'enfant devant tout le monde. Chose grave, n'humiliez jamais votre enfant devant tout le monde. Il fait mal devant les autres, vous le regardez, il faudra qu'on se voie tout à l'heure. Et ne frappez jamais votre enfant avec la colère, vous lui ferez du mal. Et quand il n'y a plus de témoins, vous le prenez, vous le raisonnez. Tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que je t'ai dit. Ça c'est inacceptable et pour cela je te donne un coup de baguette. Mais l'enfant a compris et il n'est pas humilié devant les autres. Oui, mais voilà. Beaucoup d'enfants aujourd'hui souffrent à cause de cette incompréhension de ce que dit la parole de Dieu dans l'Église même. Brimade, humiliation, résultat, révolte et complexe multiple. Et cet enfant alors, que va-t-il faire avec ses parents quand il grandira? Il va dire, enfin je suis débarrassé de ce joug. Et peut-être quand il sera dans l'adolescence, il va chercher à fuir la maison. Il va chercher à prouver qu'il est quelqu'un, à prouver qu'il a un caractère. Et il va faire toutes sortes de bêtises entraînées par ses camarades, parce que toi, papa et maman, vous n'avez pas rempli votre tâche quand il était petit. Il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de sortir de lui-même. Il a besoin de se sentir utile à quelque chose. Mais tu as toujours dit, tu es inutile, tu es incapable, il faut que je te nourrisse et tu fais rien du tout. Mais dès qu'il devient adolescent, il veut se prouver à lui-même. Mais comment? En suivant les copains. Si tu veux être un homme, tu dois fumer. Si tu veux être un homme, tu dois boire. Si tu veux être un homme, tu dois coucher avec une fille. C'est ta faute à toi, papa. Et c'est ta faute à toi, maman. Tu n'as pas su gérer le don de Dieu que Dieu t'a donné. Voilà. Voilà le malheur. C'est pour cela que certains considèrent ce commandement comme dépassé. Comme dépassé. Et contraire à la réalité d'aujourd'hui. Éphésiens 6, 4. Paul dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Voilà. N'irritez pas vos enfants. Un enfant a le sens de la justice, croyez-moi. Il a le sens de ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand il voit qu'il y a de l'injustice chez les parents, bien souvent, il va le cracher la figure, même s'il est tout petit. 5, 6 ans, 7 ans. Tu me dis ça, et avant tu avais dit ça. Tu avais promis. Et maintenant, tu ne veux pas garder ta promesse. Attention, gardez vos promesses. Je t'apporterai un cadeau de la ville. Qu'est-ce que tu veux? Apporte-moi des bonbons. La maman vient, l'enfant, « Maman, les bonbons !» Ah, tu crois que c'est facile aujourd'hui d'acheter des bonbons? Tu crois que j'ai de l'argent à dépenser pour ça? Allez, va-t'en. Mais maman, tu as promis! Alors, maman, tu es liée par ta promesse. Et si tu achètes, tu ne peux pas trouver de bonbons ou que c'est trop cher, achète quelques gâteaux, n'importe quoi. Mais tu dois faire ce que tu dis. L'enfant aura un mauvais modèle. Un mauvais modèle. Oh, ce n'est qu'un enfant. Attention. C'est une jeune personne duquel tu es en train de former le caractère et former l'avenir. Ce que tu as dit, tu le fais. Et si vraiment tu n'as pas pu le faire, tu l'expliques et tu le remplaces par autre chose. Car tu es lié par tes paroles, même devant tes enfants. Là, nous avons un commandement donné par Dieu. Mais comment allons-nous obéir à ce commandement? Frères et sœurs, je m'en vais m'arrêter ici. Parce que je m'en vais partir encore dans beaucoup de choses desquelles nous n'avons pas assez de temps pour détailler ici. Et si vous voulez savoir la suite, vous venez dimanche prochain. Et personne ne manque. Qui a des enfants ici? Qui a des enfants ici? Levez le bras. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore mariés, c'est vrai. Mais enfin, quand même, il y a une bonne moitié de cette salle qui ont des enfants, et si on allait demander, ils diraient 3 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 10 enfants. Pas vrai, mon frère? Ça viendra pour vous aussi, hein? C'est pour ça, soyons des parents responsables. C'est bien d'avoir des enfants, mais nous ne voulons pas élever des sauvages qui ne savent pas dire « Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. » Qui ne savent pas respecter. Les adultes sont là en train de parler. Il se tient quoi? Il attend. Papa, papa. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Maman t'appelle. D'accord, j'arrive tout de suite. Oh, la politesse! La politesse! Où est-ce qu'on la voit aujourd'hui? Combien d'enfants sont des sauvages? Du reste, personne ne les élève. Ils ne connaissent même pas papa. Il le voit peut-être une heure, toutes les 3-4 jours. Il a des femmes partout, du reste, l'enfant le sait bien. L'enfant va tout décrire ce que fait papa. Et il le connaît, et il va tout décrire ce que fait maman. Parce que maman n'est pas plus blanche que papa. Et la famille, la cellule familiale, se trouve en déséquilibre et s'en va à la destruction. Et c'est pour cela que notre société ne va pas, elle ne va pas, elle ne va pas. Ne me racontez pas des histoires. Nous essayons des conférences, nous essayons d'aménager ceci, nous organisons cela, nous changeons les ministres, nous changeons les directeurs, nous changeons les PDG, nous changeons... Et rien n'est changé. Pourquoi ? Pourquoi ? Le changement principal doit venir dans la famille. Je voudrais que ici on ait des gens qui crient sur les toits pour travailler d'abord au niveau de la famille. Beaucoup pensent que la solution est au niveau politique. C'est pas vrai. La solution est au niveau de la famille, de papa et maman avec les enfants. Peut-être les enfants sont grands, mais toujours cette famille peut être réconciliée. Réconciliée. Nous devons prier pour la réconciliation de la famille. Nous parlons beaucoup de prospérité. Nous prêchons beaucoup de prospérité à travers notre ville. C'est vrai. On parle de possession d'esprit malin. On voit des gens qui tombent par terre, qui se roulent par tous les coins. Si vous voulez, tout ça, c'est pas à moi de le juger. Mais je vais vous dire une chose. Si nous voulons le résultat positif dans toutes ces choses-là, il faut revenir à la famille. À quoi cela me sert-il de quelqu'un qui tombe par terre, de quelqu'un même qui est guéri et qui continue dans des familles déréglées et qui eux-mêmes n'ont pas compris les principes de base de la société qui est une famille unie. Une famille unie. Frères et sœurs, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je suis là d'abord pour poser la base et le fondement. Et ce que nous faisons ici, c'est de poser le fondement qui vient de la parole de Dieu. Ce fondement n'est pas un fondement qui vient d'une association quelconque, comme nous en avons tant, ou d'organisations non gouvernementales qui deviennent la mode, mais qu'est-ce que cela nous apporte au niveau de notre famille et au niveau de notre pays? On cherche toutes sortes d'organisations, on cherche toutes sortes de choses, et rien ne va mieux, rien. Il y a donc un endroit où on pourrait faire quelque chose pour que ça aille mieux. Nous ne sommes pas obligés de suivre cette décrépitude sociale et morale qui détruit notre pays. Nous ne sommes pas obligés de suivre cela. Non, mes frères, pagayez contre le courant, je vous en supplie. Ah, c'est dur de pagayer contre le courant. Je sais parce que je l'ai fait bien souvent lorsque j'étais sur les fleuves du Gabon, dans la petite pirogue. Que trois entre nous, contre le courant, ne t'arrête pas. Je suis fatigué, le soleil chauffe, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, tu retournes en arrière. Nous ne sommes pas là pour aller en arrière, nous sommes là pour aller en avant et atteindre le but. C'est plus facile de se laisser aller. C'est vrai. Mais la fin, c'est la destruction. Alors, ne nous laissons pas aller. Demandons à Dieu la sagesse, la foi vraie et vivante. Et pagayons contre le courant. Oui, mes frères, mes amis, ne tombons pas les bras. Ne jetons pas la responsabilité sur les autres. Oh, les autres. Oh, le gouvernement. Oh, les autorités. C'est pas vrai. Oh, toi, papa, dans ta maison. C'est là que tout commence. Facile de jeter la responsabilité aux autres. Frères et sœurs, nous avons besoin de sa grâce. Baissons la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que cette parole peut être choquante, mais Seigneur, mon Dieu, ce n'est que l'étalage de la réalité. Ce n'est que l'étalage, Seigneur, la proclamation ouverte de ce qui est en réalité. Et nous savons, Seigneur, car tu nous le dis, que la société commence d'abord par la famille cellule. Papa, maman et les enfants. Et si cette cellule est forte, la société sera forte. Oh Dieu, mais nous nous sommes laissés gagner par le péché, gagner par la violence, gagner par les expédients de toutes sortes. Nous nous sommes laissés emporter, Seigneur, par toutes sortes de doctrines farfelues. Et avant de parler de la repentance, avant de parler de la régénération, nous parlons bien souvent de prospérité, nous parlons bien souvent de toutes sortes de choses qui sont certainement bonnes, que tu veux certainement nous donner, mais que tu ne peux pas nous donner en vérité si nous vivons dans le péché, dans le dérèglement et dans la magouille. Oh Dieu, nous crions à toi, Seigneur, afin que tu travailles dans nos cœurs. Travaille dans nos cœurs ce matin. Peut-être que dans ton cœur, tu te sens reprocher des agissements qui ne sont pas bons avec ta famille. Tu n'as pas été le père de famille, le dirigeant de famille, avec des principes pour éduquer tes enfants comme tu aurais voulu. C'est à toi que je m'adresse d'abord, père. Tu vois des défauts dans ton éducation, dans ta façon d'être. Tu vois de la faiblesse en laisser aller. Une compromission inacceptable. Tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Ne penses-tu pas que c'est bon de te repentir? Si c'est ce que tu veux faire, fais-le en te levant maintenant. Toi, papa, d'abord. Car c'est toi d'abord le premier responsable. Lève-toi maintenant. Je n'attendrai pas puisque l'heure est passée. Père, père, père! C'est à toi que je m'adresse. Toi, tu es le chef de ton foyer. Toi qui es appelé à diriger ta femme et tes enfants. Toi qui es appelé à leur enseigner la crainte de l'Éternel. Toi qui, chaque jour, devrais lire la parole de Dieu et l'enseigner à tes petits. Tu ne le fais pas. Tu manques à ton devoir. Père, debout! Il y en a qui sont levés et qui sont assis. Je ne veux pas ça. Vous êtes levés, vous êtes courageux. Père! Oh, il y en a plus qui devraient se lever, ça je sais. Il y en a plus, mais vous avez honte. Vous avez honte et vous montrez encore de la lâcheté. Et vous, mère, faites-vous ce que vous devez faire vis-à-vis de vos enfants? Avez-vous main dans la main avec votre mari pour éduquer vos enfants? Puisque tout le reste des maris ici sont parfaits, donc ils ont des mères qui ont encore opéré avec eux. Ou bien... oui ou non, si vous n'avez pas fait vos devoirs, levez là où vous êtes, pour vos enfants. Pour vos enfants, c'est vrai que dans la vie du passé, vous avez eu des enfants avec combien de maris? C'est vrai ça, c'est vrai. Vous restez responsable. Vous restez responsable. Que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il d'autres encore? Maman, c'est à toi que je m'adresse. Je ne parle pas aux membres d'église, je parle à tout le monde, membre d'église ou pas. Maman! Tes enfants sont tout. Perdus, tes enfants sont tout. Entre les mains de Satan dans les fétiches, dans la sale vie que tu as eue autrefois, humilie-toi devant Dieu, je t'en supplie. Lève-toi maintenant et demande le secours de Dieu et que tes enfants, ceux que tu as mis au monde, soient sauvés, qu'ils n'aillent pas dans la perdition. Pourquoi faire des enfants pour aller en enfer? Seigneur Jésus, merci pour ceux qui ont eu le courage de se lever. Soit les pères, soit les mères. Je te demande, Seigneur Jésus, vois leur regret, vois leur remords. Ils ont à se reprocher des choses que j'ignore, Seigneur, mais que toi tu connais. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-leur et donne-leur la force de remonter le courant, de retrouver ces enfants qu'ils ont mis dans le monde, de les retrouver et de tout faire pour qu'ils trouvent Jésus-Christ. Non pas pour leur donner l'argent simplement, mais Seigneur, pour leur donner la plus grande richesse, le sauveur, le salut, la vie éternelle. Aide-les, Seigneur, à être des exemples dans la société. Seigneur, je les remets entre tes mains. Je sais qu'il y en a d'autres qui auraient dû se lever, mais ils n'ont pas eu le courage, Seigneur. Mais parle-leur quand même, et qu'ils changent, et qu'ils prennent une décision devant toi, ô Jésus. Reprenez vos places, mes amis. Merci de ce que vous vous êtes levés. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous avez admis la réalité qui est beaucoup trop courante au milieu de nous. Seigneur, nous sommes là et nous sommes ton Église. Nous avons encore tellement de défauts et d'imperfections. Mais nous comptons sur ta miséricorde et ta grâce. Nous ne sommes pas sauvés à cause de notre excellence, mais nous sommes sauvés à cause de ton excellence, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, Seigneur Jésus. Merci parce que tu travailles dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons t'apporter ces dîmes et ces offrandes, qu'elles te soient agréables et l'expression de cœur qui t'aime et veulent te servir. Merci pour le privilège de donner au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.